أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec un peu de retard, mais en essayant d'être, de répondre à l'attente qui est la vôtre, à la suite des deux interventions qui ont été faites par notre frère Ezzedine et par le cheikh Mohamed Minta concernant le ramadan dans son ensemble, puisqu'il y a le mois de la solidarité et le mois de la spiritualité, on va terminer cette réflexion sur la réalité de l'exigence de justice sociale. Je vais essayer de faire un exposé bref, de façon à vous donner la possibilité ensuite de poser un certain nombre de questions, puisque le but quand même c'est que nous ayons un échange. Et il vous a été dit et rappelé tout à l'heure concernant le mois du Ramadan que c'était un mois qui était un mois de privation, un mois qui était aussi un mois vis-à-vis duquel est sur le plan de la solidarité et sur le plan de la spiritualité un certain nombre de choses étaient requises de la musulmane et du musulman pour pouvoir le vivre de la façon la plus authentique et la plus profonde qui soit. Permettez-moi d'ajouter à ces deux dimensions deux termes qui me paraissent déterminants par rapport au mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est un mois qui est un mois de témoignage. Et le mois du Ramadan, c'est un mois qui est une école. Témoignage pourquoi ? Témoignage parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans la révélation, nous dit qu'en fait, il y a dans ce jeûne, pour nous comme d'ailleurs pour tous ceux qui nous ont précédés, un signe. Et ce signe, c'est celui qui est le secret d'une spiritualité active, qui est le secret d'une spiritualité vivante. Et une spiritualité vivante et active est une spiritualité qui se voit. Ça se voit, la spiritualité, chez une femme ou chez un homme qui porte cette dimension. Ça se voit et ça doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, nous le savons, il est un secret qui a traversé toutes les traditions. « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et regardez ce qui est dit. « Peut-être atteindrez-vous la conscience intime de Dieu. » Et « taqwa » faussement traduit et trop rapidement traduit en français par « piété » est beaucoup plus que cela. C'est la dimension d'une intimité, d'une conscience aiguë de la présence du divin dans notre vie. La'allakum tattaqun. Peut-être parviendrez-vous à ce degré d'une conscience éveillée. Et l'autre enseignement de ce verset, c'est que toutes les traditions de spiritualité, toutes les traditions de religiosité, toutes les traditions qui sont liées à Dieu, ont manifesté dans le lien qu'il y avait avec Dieu l'expérience de la privation. L'expérience de la privation, non pas de la privation involontaire, mais de la privation volontaire, décidée, déterminée. Je peux avoir ce que j'ai et je m'en prive pour celui qui l'a créé. Je peux l'avoir, je peux ouvrir mon frigo, je peux. Mais cette idée de mettre un terme à ce qui est normal, naturel, est une dimension profonde de la rupture dans le naturel pour développer la spiritualité dans le quotidien. Rompre le naturel dans le quotidien pour faire naître la spiritualité au cœur de ce quotidien. Ça, c'est la dimension profonde de l'expérience. Et cela veut dire qu'on devient témoin dans le quotidien. On devient témoin devant les gens qui nous entourent. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens. Et témoins devant les gens, c'est dans leur quotidien. Quel est le témoignage qui est apporté? C'est un mois du témoignage. C'est que où que tu sois, à partir du moment où vous avez compris ce qui a été dit par les deux conférences précédentes ou les deux exposés précédents, où que tu sois, ta présence doit être pour celui qui t'accompagne, ou celui qui te voit, ou celui qui t'interpelle un signe. Tu lui rappelles que ce qu'il est ou ce qu'il a n'est digne que par la méditation et la profondeur dont il a conscience qu'il porte ou qu'il traduit. Ça, c'est une dimension de témoignage. Le mois du Ramadan, c'est ça d'abord. C'est la question première, c'est à quoi ça sert finalement. Ça sert pour soi, on va y revenir, mais ça sert comme un mois vraiment de témoignage. Et j'aimerais vous dire combien, et je répète souvent, je l'ai répété en maintes occasions, combien je suis, de ce point de vue-là, inquiet de voir le type de colonisation que ce mois est en train de vivre en Europe et aux États-Unis de la même façon, à savoir un mois où tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux qui sont autour de la communauté musulmane et les musulmans aussi acceptent que finalement ça devienne un mois de festivité durant la nuit et de sommeil prolongé pendant le jour. Alors que le mois du Ramadan, ce n'est pas ça du tout. Oui, jeûner suppose une conscience éveillée. Jeûner ne suppose pas une conscience qui s'endort le jour et qui vit la nuit. Et ça n'est pas... Alors bien, c'est bien, je veux dire, culturellement c'est intéressant, on peut se sentir mieux accepté. Mais je ne sais pas si vraiment nous sommes acceptés quand on transforme le Ramadan en un mois de festivité de nuit, oui, de la nuit, alors que ce devrait être un fort témoignage de spiritualité pendant le jour. Je ne sais pas si c'est vraiment du respect ou si ce n'est pas cette vieille habitude d'une civilisation dominante qui colonise tout trait culturel pour l'intégrer à sa logique, puisque c'est une fête festoyante. C'est ce qu'on est en train de voir. Et si les nuits du Ramadan ne sont plus pour nous, dans notre présence, qu'une fête que nous partageons avec nos voisins ou avec ceux qui ne le pratiquent pas particulièrement, ou qui en font, vous savez, cette espèce de petite présence exotique pour une société en mal de sel et de piment, eh bien nous sommes en train de perdre le sens d'une spiritualité qui doit témoigner quelque chose le jour. Mais les premiers responsables de cela, ce ne sont pas ceux qui colonisent, ce sont ceux qui sont colonisables. Parce qu'on n'est jamais colonisé que quand on est colonisable. Parce qu'on n'est jamais, on ne se perd jamais que quand on s'est déjà un peu perdu. Et ça, c'est notre responsabilité pour la majorité d'entre nous de savoir qui nous avons envie d'être dans cette société, à quoi ça sert. Un mois de témoignage, une spiritualité vivante au cœur du quotidien des hommes, pour leur rappeler, nous y viendrons, qu'on ne consomme jamais n'importe quoi et n'importe comment. Et que finalement, au bout du compte, nous sommes bien ce que nous consommons. D'une certaine façon, la façon dont nous consommons, c'est bien, ça dit bien quelque chose de ce que nous consommons. Vous connaissez la formule « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». On pourrait dire aussi « Dis-moi ce que tu manges et comment tu manges, je te dirai qui tu es ». Et là, vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir tout à l'heure, mais enfin, on les dira quand même. Parce qu'on n'est pas là pour vous faire plaisir d'abord. Donc un mois de témoignage. C'est aussi un mois qui est une école. Et là, on a mal compris. C'est un mois, le neuvième du mois lunaire, où l'on se nourrit d'une façon différente que la nourriture que nous avons l'habitude de consommer quotidiennement. Nourriture spirituelle, nourriture de conscience, nourriture consciencieusement établie en soi, dans son cœur, dans son être. Mais ce n'est pas pour s'arrêter à la fin du mois du Ramadan. C'est une école pour les 11 mois qui viennent. Il y en a qui n'ont pas très bien compris ça. Ils vivent différemment pendant un mois et ils s'oublient pendant 11. Alors que c'est vivre différemment pendant un mois pour mieux se souvenir dans les 11 qui suivent. Le caractère répétitif de toute spiritualité, toutes les traditions, toutes, vous le verrez partout. Allez en Inde, chez les hindouistes ou chez les bouddhistes. Allez en Amérique du Sud, dans les traditions les plus anciennes, dans le vaudou. Allez dans toutes les traditions monothéistes, juives, chrétiennes, et en particulier la nôtre. Il y a un caractère cyclique, parce que Dieu, il nous connaît. Il sait ce que nous sommes. Il sait que nous avons besoin de répétition pour enraciner les choses. Nous répétons nos prières. Nous répétons le vendredi, nous répétons le jeûne de la même façon. Pourquoi ? Parce que ça doit être une école qui doit changer nos vies. Et pourquoi ? Pour faire naître vraiment une attitude pendant l'année qui doit changer. Et là, malheureusement, nous sommes un peu dans une compréhension extrêmement réduite. Il est dit que pendant le Ramadan, je ne bois pas, je ne mange pas, j'évite tout plaisir d'ordre physique, je ne fume pas de 6 heures le matin à 5 heures le soir. Après 5 heures, je fais ce que je veux. Et quand le Ramadan est fini, je recommence à faire ce que je veux. Ce n'est pas une école, ça. C'est de l'hypocrisie. C'est l'école de la schizophrénie. On a appris un certain nombre d'éléments techniques et on devient des techniciens du halal et du haram. Rien, pas de lumière, que des règles. Mais on ne se fait pas qu'avec des règles. On se fait avec une lumière intérieure qui fait comprendre le sens des règles. Et vous aurez remarqué une chose, jamais l'islam ne vous demande d'être musulman sans comprendre ce que vous faites. Jamais. Il n'a jamais établi une règle sans qu'elle te dise « réfléchis ». C'est dans la tête que ça se passe aussi, même si c'est du cœur que ça part. Jamais il ne vous est dit, pour avoir un cœur qui vibre, d'avoir une intelligence au sommeil. Et votre cœur ne vibre d'autant plus profondément que votre intelligence est active. C'est cette école-là qu'il faut comprendre à partir du Ramadan. Et cette école et ce témoignage, ils partent d'un élément, c'est comme ceci que nous allons rentrer dans le thème de la justice. Ils partent d'abord et essentiellement de... pour faire vivre la foi, vivre une rupture. Vivre une rupture dans ce qui est naturel. Tu as l'habitude de manger la rupture pour que tu fasses vivre ta foi. Elle est aussi une école dans laquelle il y a, avec une foi éveillée, une dimension très très importante de l'exigence. Nous avons une religion qui dit au monde entier, qui nous dit à nous-mêmes, pas de salut pour l'homme sans exigence. Être exigeant avec soi et avoir le sens de l'effort. Ce qui est à l'opposé de ce qu'on est en train de nous proposer dans beaucoup de sociétés de consommation. La loi du moindre effort en tout. Tous ces appareils, tous ces instruments pour faire le moins d'effort. Faut que la télévision, tu puisses changer les chaînes à distance. Parce que te lever, c'est fatigant. Oui. Il faut que tout soit techniquement facilitateur. Alors, il y a du bien dans tout ça, ne le critiquons pas. Mais quand toute la mentalité, elle est le moindre effort, eh bien, les hommes et les femmes du Sud qui meurent 40 000 par jour, eh bien, ce n'est pas dans cela qu'ils trouveront leur espoir. Parce qu'avec le confort et la facilité, nous avons entretenu notre paresse. Et le Ramadan dit stop. Absolument. Un mois qui fait renouer l'être avec le sens de l'exigence personnelle et de l'effort. Il faut que tu travailles. Tu veux changer le monde ? Change ton monde. Tu veux changer ta société, change ton cœur. Tu veux changer les consciences, questionne la tienne. C'est comme ça que ça commence. Ça, c'est la dimension essentielle et première. C'est aussi un mois dans l'école de la solidarité. Si un jour tu veux être digne devant Dieu, il faut que tu saches être digne devant les hommes. Et si tu veux le servir, il faut les servir, servir les hommes. Un mois de solidarité. Il n'y a pas quelqu'un qui se rapproche de Dieu qui peut négliger les hommes. Jamais. Ni un, ni plusieurs. On ne néglige pas l'attention prêtée aux gens. Et, fondamentalement, c'est ce qui va nous préoccuper ce soir, la dimension d'une justice établie comme étant l'un des principes fondateurs du jeûne du mois du Ramadan. Et donc, ce qui nous est dit, c'est que c'est un mois qui, entre le témoignage dont je parlais tout à l'heure et en même temps l'école, il nous dit votre but, ce à quoi ça sert tout ça, c'est à réformer. Il faut vous réformer les choses. Et qu'est-ce que c'est réformer? Un être de foi, où qu'il est, il réforme. Vous savez ce que c'est réformer? Je suis dans un lieu, je suis dans une situation, je suis dans un état, je l'observe. J'en mets en évidence les acquis et je transforme toutes les déficiences. C'est ça un réformateur. Où qu'il est, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui manque? Et je change ce qui manque pour que ce devienne un acquis. On est là pour ça. T'es en France, t'es à Lyon, t'es où tu veux. Avec le jeûne, ce que Dieu dit, c'est que tu commences une réforme dans ton cœur, dans ton corps, dans ta spiritualité, et qu'ensuite ça rayonne. Mais le jeûne dit, le jeûne du mois du Ramadan dit, pas de réforme sociale, pas de justice sociale, sans justice intime. Et c'est de là qu'il faut commencer. La raison pour laquelle, quand on dit tout de suite le Ramadan et la justice sociale, c'est qu'il faut d'abord poser essentiellement le Ramadan et la justice. Où se situe la justice ? Et le premier espace de justice, c'est là qui se passe, c'est à l'intérieur. Quand il nous est dit dans le hadith authentique que ton corps a des droits sur toi, que tes yeux, tes mains, tout ce qui est, par extension, ce qu'on peut comprendre du hadith, que tous les éléments que Dieu t'a donnés ont des droits sur toi et que tu dois donner à chacun, dis, donne à tous ceux qui ont tout ce qui a un droit, son droit. C'est ce qu'il faut donner essentiellement. Eh bien, il faut qu'on commence par cela. C'est la réalité d'un travail qui doit partir de l'intérieur. Et j'aimerais vous dire une chose. Pour avoir travaillé pendant de nombreuses années avec des gens qui étaient sur le terrain de la justice sociale et de la justice dans le tiers-monde, j'aimerais vous dire une chose qui a été mon constat. Et Dieu sait si je les respecte. Dieu sait si je les ai accompagnés. Et j'en ai accompagné beaucoup pendant de longues, longues, longues années. Ben, je me suis aperçu d'une chose, c'est que certains voulaient la justice sociale avec tous les autres et dans leur façon d'être avec eux-mêmes, ils étaient injustes. Certains, pour que d'autres se gagnent, se sont perdus. Certains, pour que d'autres puissent vivre, ne savaient plus vivre. Certains, pour qu'il y ait une justice sociale, vivaient dans une injustice caractérisée à leur propre endroit. Parce que c'est ce que nous dit l'islam à partir du jeûne. Il nous dit, sois juste d'abord avec toi-même. Il y a une justice personnelle, il y a une justice, un équilibre que tu dois déterminer. Et quel est le premier élément de la justice qui t'est demandé de toi à toi? Le jeûne, le ramadan, te dit une chose. Il te dit, tu n'as pas le droit, au nom de ce que le Créateur, ce que Dieu t'a donné, ton corps, ton cœur, ta conscience, ton temps, ton être, tu n'as pas le droit de te négliger. Tu dois commencer par un travail qui est un travail de conscience personnelle, de faire, et le mois du Ramadan pour ceci est déterminant, c'est un mois de bilan de soi à soi. Michel Serres, vous le connaissez, un philosophe qui disait « Quand un être regarde la nature et qu'il n'y voit pas les éléments d'un signe et d'une éthique, et qu'il néglige tout ceci, et qu'il en arrive à ne pas croire en Dieu, est un être négligent. » Il dit en cela quelque chose que l'islam dit de façon très très forte. La négligence qui est, d'abord, d'oublier la présence du Créateur dans nos vies quotidiennes. D'oublier le sens, non pas simplement de halal, haram, licite, illicite, non, d'un accompagnement, d'un rappel. Il est la miséricorde, il est la douceur, il est celui qui accueille, il est le rapproché. Et toute cette dimension, c'est d'abord une dimension de justice que tu as de toi à toi. Raison pour laquelle c'est tout à fait étonnant. Si vous voyez dans le Coran, Allah SWT a dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Dieu aime ceux qui ont une conscience profonde de lui. Il aime ceux qui se reposent en lui. Il aime les justes. El muqsitin. Dit tout cela. Et il dit qu'il n'aime pas, Inna Allah la yuhibbul kafirin. Dieu n'aime pas ceux qui le nient. Mais il dit aussi Inna Allah la yuhibbul zalimin. Dieu n'aime pas les injustes. Et dans les commentaires que vous avez de cette phrase, ce n'est pas simplement une injustice sociale, c'est une injustice de soi à soi. Parce que le message de l'islam dit, dans ton cœur, il y a une étincelle. Si tu ne la cherches pas, tu es fait preuve d'injustice à ton propre égard. Sois pour toi-même le premier chercheur de l'équilibre. Et si tu continues ta vie dans le déséquilibre, tu es injuste à ton propre égard. Et même si tu as fait de l'injustice à personne d'autre, tu as parfois été injuste à ton endroit. Pourquoi ? Parce que tu es négligent, parce que tu ne fais aucun effort dans la gestion de ton propre équilibre personnel, de ta propre intimité, de ton propre rapport. Et combien il y en a ici qui jeûnent quotidiennement et qui en même temps continuent dans leur vie à vivre la réalité d'un déséquilibre entretenu, conscient, mais jamais résolu ? On l'accepte. Mais de toute façon, je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas. Et je ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire pendant la journée. Mais le déséquilibre interne, le travail qui est le travail de dhikr, le travail de spiritualité, le travail de rappel, le travail de conscience intime, de bilan personnel, de savoir où on en est, comment est-ce qu'on gère son cœur, comment est-ce qu'on gère sa conscience, c'est la première des dimensions. Le jeûne, c'est de te rappeler la justice que tu te dois. Et ça, c'est pas rien. Si tu regardes ta main comme ça et tu te dis, il y a un jour, elle parlera contre moi, qu'est-ce que j'en ai fait ? Puis tu regardes ton corps, tu te dis, mais comment je l'ai montré ? Puis tu regardes ton être, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Puis tu observes le temps qui passe, tu te dis, mais c'était mon temps, ça c'était ma vie, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je l'ai perdu à quoi ? À faire quoi ? Quand pendant toute une journée, tu as jeûné pour te priver et avoir la conscience de l'intimité et que tu passes toute la soirée à te perdre devant n'importe quelle émission de télévision qui te rend, vous le savez, plus bête au moment où tu l'as terminé qu'au moment où tu l'as commencé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est ta conscience si tu en arrives à vivre de cette nature-là ? Si finalement, tu as simplement mis, saupoudré dans une vie d'inconscience, des petits éléments techniques de conscience et dont tu te dis « ça me sauvera ». Non, cette petite technicité, ces petites règles-là ne sauvent pas. Si elles ne sont pas des lumières qui rayonnent partout. Premier élément donc, une dimension de justice profonde et qui est celle que l'on se doit. Et franchement, si on ne commence pas par là, moi je crains que tous ceux qui sont, vous savez, on en voit hein, beaucoup de musulmans pendant Ramadan, ils sont partout. Justice, ils veulent aider tout le monde. Ils aident tout le monde sauf eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ils ne prennent pas le temps. Attends, on prend en recul, on prend du temps. Combien de temps vous donnez-vous par jour pour vous ? Pas de façon égoïste, mais de façon spirituelle. C'est-à-dire, à un moment donné, attends, il faut... Je veux dire, mon cœur est lui. Je veux dire, il peut témoigner contre moi. Attends, tu t'es occupé de tous les cœurs de la planète, tu t'es pas occupé du tien ? Tu t'es occupé de tous les blessés, t'as même pas vu tes blessures ? T'as même fait pire. T'as noyé tes blessures dans la blessure des autres. Mais tes blessures, elles restent. Ta négligence, elle reste. En d'autres termes, ça commence par là. Et c'est dans ce type de rapport à la propriété qu'on va voir ce que c'est que la justice sociale. Ça naît de ça, le sens profond des priorités. Parce que si je suis hyper exigeant avec la justice que je me dois, je serai intransigeant pour la justice que je dois aux autres. Mais si je ne suis pas juste avec moi, les autres, ça passera par perte et se profit. C'est quand je peux, si je peux. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Quand les spiritualités ou la spiritualité ou l'intensité diminuent, les engagements diminuent par la force des choses. Les démissions augmentent si tu démissionnes par rapport à ton propre cœur. Tu n'es jamais aussi attentif aux autres que quand tu es attentif à toi-même. si tu es avec Dieu, pas dans un sens, vous m'avez bien compris, c'est pas dans un sens égoïste. Se plaire, s'aimer, parce que ça on sait bien faire, ça, il n'y a pas besoin de spiritualité tous les jours. Donc la dimension du rappel, et puis aussi de questionner tout ce qui est de l'ordre naturel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit une chose qui est difficile à entendre en Occident, mais que nous répéterons et que nous répéterons souvent. Tout ce qui est naturel n'est pas bon. Tout ce qui vient de ma nature n'est pas bon. Le sens de l'effort, c'est de dire attends. Aimer comme ça naturellement, sans règles, ça peut te paraître bien, mais il y a des règles dans l'amour. Il y a des exigences. Il y a des exigences même dans la façon dont on le vit. Être attiré, le désir par exemple, le grand culte aujourd'hui, c'est le culte du désir. On a eu au XVIIIe siècle le culte de la raison, on avait même un jour pour ça. Aujourd'hui, 365 jours sur 365, c'est le culte du désir. Tant que tu désires, t'es en vie, parce que le désir fait vivre. Vous connaissez la formule, l'espoir fait vivre. Oui, ça tue aussi un peu. Et donc dans cette réflexion-là, nous, ce qui nous est dit, c'est non, ça dépend lequel, ça dépend comment. Et tout ce qui est naturel, manger, ça dépend comment. Boire, ça dépend comment. Vivre de ses instincts naturels, ça dépend comment. Parce que ça nous rappelle, notre conscience doit nous rappeler que tout ça, ça doit se maîtriser. Comprenez bien une chose, on ne naît pas naturellement juste. La justice est une question de maîtrise, ça commence par soi. La justice est une question de maîtrise. Un enfant, il ne naît pas naturellement juste, il naît envahisseur. Tant qu'il ne voit pas de limite, il avance. S'il ne voit pas de limite de sa mère, il avance. S'il ne voit pas de limite de son père, il avance. C'est des limites. C'est une éducation dans l'amour qui dit « Je te limite pour que tu grandisses, pas pour que tu t'étouffes. » C'est ça, la réalité d'une vraie éducation juste. Limiter pour grandir, limiter pour donner de l'espace aux autres. On s'éduque à la justice et ça commence là, à l'intérieur. Cette dimension profonde que chacun doit vivre quotidiennement pour en arriver à une justice beaucoup plus général. Et quand on se prive de manger, quand on se prive de boire, c'est justement pour comprendre qu'en retirant le naturel, il y a une vraie exigence de spiritualité pour nous, pour réussir à s'enraciner dans la réalité de cet effort. Savoir ce que c'est que le sens de boire. De boire. À tel point que la différence essentielle qu'il y a entre le fait de boire, on dit Bismillah, et c'est reconnu, c'est une dimension, on se souvient de Dieu. Mais il y a un moment donné, vous le savez, où quand vous rompez le jeûne, ce que vous dites pour vous souvenir de Dieu, entre le moment où vous en souvenez et un acte totalement naturel, il y a une invocation qui est décuplée dans sa réception. Dieu entend beaucoup plus celui qui, parce qu'il s'est privé, se souvient de celui qui a donné, et qui, au moment où il prend ce qu'il lui a donné, se souvient de lui. Intimement, très profondément, raison pour laquelle il faut toujours faire une pause au moment où on rompt le jeûne, toujours. C'est pas, il faut faire vite et il faut une pause. Vite, parce qu'il faut couper le jeûne, parce qu'on reconnaît le bienfait de Dieu, et il faut faire une pause pour se souvenir juste à ce moment-là qu'il nous le donne. Et ça, c'est une école. C'est une école sur le travail des choses naturelles. Donc, première dimension, que chacun doit vivre. Mais vous imaginez bien que pour ça, il y a un certain nombre de nos traits culturels qu'il faut remettre en cause. Cette attitude qui consiste à beaucoup veiller et à dormir pendant la nuit, tout ce que je viens de dire ne peut être vécu que si on est les amis du matin. Se lever le matin, manger cette petite nourriture qui nous fait entrer dans le jeûne de la journée, c'est un acte de justice par rapport à sa méditation. Faire cette prière du matin, ceux où les anges de la nuit et les anges du jour sont présents. Tout ça, toute cette espèce de savoir que c'est un jour d'une grande bénédiction, c'est un mois de grande bénédiction. Tout ça, ça doit faire partie de notre quotidien. On doit en être empli. Mais si vous n'êtes empli de ce que seulement vous ne pouvez pas faire en matière de licite et d'illicite, c'est pas du jeûne, c'est un code de la route. Comme je vous le dis, c'est une dimension schizophrène. Ici, ce qu'il faut, c'est vraiment s'emplir de tous ces signes. Ce matin, vous savez, quand tout le monde dort, vous savez qu'il y a des gens, d'autres musulmans, vous avez une certaine chance d'être dans des quartiers parfois où il y a d'autres musulmans, mais les gens dorment et vous êtes éveillés. Les gens vont consommer plus tard et vous consommez maintenant pour ne plus consommer plus tard. Cette prière, cette réflexion. Tout ça, ça fait partie des choses essentielles. C'est pas simplement ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. C'est toute la dimension du travail. Et ça, Dieu nous dit, tu entres par cette porte dans le chemin de la justice, de toi vis-à-vis de toi, parce que ton corps, il a besoin aussi de toute cette éducation, de la résistance, de ce qui fait naître ta mémoire par rapport à Dieu ou par rapport aux autres êtres humains. Vient ensuite, au-delà de la justice par rapport à soi, la justice dans la consommation. Et là, c'est ce qu'il faut questionner. Combien il y en a parmi vous? Il dit, oh, mais tu sais, moi, je ne peux pas, c'est ma famille, c'est ma femme, elle est comme ça, c'est mon mari, il aime bien ça. Jeûne toute la journée, et quand il s'agit de rompre le jeûne, il y a 3 plats sur la table, 4 plats, c'est un premier plat, un deuxième plat, un troisième plat, oui, à partir du 3e plat, tu ne sais plus quel est ton nom, tu as envie de dormir, c'est tout. Vous connaissez ça? Ça, c'est une, excusez-moi du terme, c'est une trahison. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous est enseigné. Quand on sait qu'il faut juste couper le jeûne, manger vraiment. Parce que quel est le but? Se souvenir de Dieu et être en empathie, en sympathie, en fraternité, en affectivité, en émotivité avec tous ceux qui n'ont rien. C'est ça le but. C'est une éducation à te souvenir des hommes. Tu jeûnes pour savoir du plus profond de ta conscience qu'il y a des êtres, au moment où tu coupes le jeûne, à qui on a retiré le droit inaliénable de rompre le jeûne. Rompre le jeûne, c'est un droit inaliénable. Inaliénable. Tout être sur la surface de la terre devrait pouvoir rompre son jeûne. C'est pour ça que tu jeûnes. Et toi, tu vas t'empiffrer. Tu ne manges pas, tu ne romps pas. Tu te remplis. C'est une attitude qu'il faut questionner. Et qu'on me dise, ah mais tu sais, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est comme ça. Mais en islam, c'est pas comme ça. Et le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, c'est pas ce qui fait l'être de foi. L'être de foi, c'est celui qui respecte un minimum de principes. Et s'il y a un trait culturel qui trahit un principe fondamental, c'est le trait culturel qu'on questionne, c'est pas le trait fondamental. Ce n'est pas le principe fondamental, qui consiste à entrer dans la nuit, ce moment qui est un signe, qui a fait pleurer le prophète, toute une nuit, le passage du jour à la nuit, c'est un passage déterminant. Et là, tu ne peux pas, tu manges un peu, tu fais une prière qui est l'accueil de la nuit, le rappel de Dieu, puis tu manges un peu, et tu habitues toi-même, ta femme, tes enfants, un peu, juste ce qu'il faut pour être bien, mais pas plus que ce qu'il faut pour se souvenir. Une justice dans la consommation. Alors ça, c'est dans la quantité. Ensuite, on sait qu'il y a des plats qui sont halal, puis il y a des plats qui sont haram. On ne rompt pas le jeûne avec des choses qui nous sont interdites. Vous savez, porc, alcool, alors tout ça, techniquement, tous les musulmans, c'est des champions pour ça. Bon, j'ai une question. Tu peux, toi, rompre ton jeûne avec... un hamburger made in McDonald's? C'est possible, ça? C'est pas haram si c'est du fisher. Du fish burger, pardon. Parce que le poisson, je peux. Et vient un moment donné où il y a une justice fondamentale par rapport à la consommation. Alors la justice fondamentale par rapport à la consommation, si on a bien compris le sens du jeûne, c'est qu'on ne mange pas n'importe comment. C'est qu'on mesure, on mange avec mesure, avec pondération. On est mesuré dans son être, on est mesuré dans ce que l'on consomme. Cette espèce de mesure qui doit être aujourd'hui au cœur de ce pays, et non pas simplement ce qu'on est en train de faire, la colonisation de l'exotisme du Ramadan, les soirées du Ramadan, c'est couscous, c'est boisson à volonté, puisque c'est permis. La nuit, tout est permis. Et tu vas voir des gens dans certaines soirées où ils fêtent la nuit du Ramadan, il y a de la nourriture qui est gaspillée, il y a des plats qui sont surdimensionnés, des choses mais absolument inacceptables. Et ça c'est nous. Mais c'est parce qu'on est comme ça qu'on est colonisable, culturellement et religieusement. C'est parce qu'on est comme ça, parce qu'on l'admet, puis qu'on a envie d'être aimé. Ah ben ils participent à nos fêtes. Mashallah, ils acceptent le Ramadan. Ils acceptent notre culture. Ils acceptent rien du tout. C'est une nouvelle fête, c'est tout. Ce qu'ils acceptent, c'est la fête. Tant que tu as une fête, tu rentres partout. Entre avec une fête, tout le monde est d'accord. La fête, c'est vraiment la clé, c'est le sésame de beaucoup de conscience dans ce pays. C'est la réalité, on aime les fêtes. L'exigence, la pondération, la mesure, le rappel du fait qu'il y a des choses qui sont inacceptables sur la surface de cette terre. Non, tu ne vas pas nous gâcher la fête. Ben si, parce que notre fête, elle est dans la conscience. Il n'y a pas de fête chez nous qui se passe dans la nuit. Vous avez remarqué que toutes les fêtes musulmanes, c'est tôt le matin. Avec une prière, c'est toujours quand on se voit. C'est pas dans la nuit avec la musique. Non, c'est pas ça la fête chez nous. La fête, on se voit. On a la dignité des êtres qui se parlent. On n'a pas la crainte des êtres qui tombent dans la nuit avec une musique, tu t'entends plus. En d'autres termes, je te vois pas, je t'entends pas, mais on fait la fête ensemble. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Notre dimension, elle est vraiment une dignité humaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de... Ça veut pas dire qu'on n'a pas de moment de divertissement. Mais pas n'importe comment. On ne se divertit pas n'importe comment. Il y a une dignité même dans le divertissement. Et ici donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est la justice dans ce que l'on consomme. Alors, vous le savez, il y a, et je n'entre pas en matière, vous avez même des choses qui vous sont distribuées du point de vue de la viande halal et tout ceci. La meilleure des viandes pour nous est celle qui est sacrifiée selon des règles très précises. Mais j'aimerais mettre en évidence un certain nombre de choses. Si ce mois du Ramadan est vraiment une école, et si c'est vraiment un témoignage, vous ne pensez pas qu'au lieu de se faire coloniser par un surplus de consommation, vous tous, beaucoup d'entre vous voient Noël venir, et vous n'êtes pas pris d'un délire, d'une sensation de... Attendez, mais c'est quoi là? C'est la foire, quoi. On achète des cadeaux. Ça va dans tous les sens. Nous, on ne fait pas ça, on n'en est pas arrivé là. Nous, on achète de la nourriture, tu vois, c'est plus noble. Et on mange. Et on mange beaucoup. C'est pareil. C'est l'acceptation dans nos principes d'une culture de la consommation. On consomme. On consomme. On est devenus des consommateurs. Vous ne croyez pas que notre rôle, à ce moment, et pour toujours dans ce pays et sur ce continent, c'est de retrouver l'énergie première de ce qu'est ce jeûne, pour qu'il rayonne dans toutes les manifestations de notre consommation, pendant ce mois, juste ce qu'il faut et comme il faut, mais aussi avec une certaine éthique. Je ne mange pas n'importe quoi. Il y a un produit, quand il vient sur ma table, j'en questionne le sens. Évidemment, il faut des priorités, parce que si on devait tout questionner, on ne mangerait plus rien. Certains m'ont dit ça, m'ont dit, oui, non, mais attends, si on va tout questionner d'où ça vient, on ne peut plus rien manger. Non, il y a des priorités. Il y a des choses dont vous savez, de science presque certaines, c'est inacceptable. Moi, je ne sais pas comment on peut... Vrai, encore une fois, ce n'est pas une fatwa. Alors, je sais qu'il y a des savants qui sont intervenus à la télévision, X ou Y, Cheikh Al-Qardaoui a pu le faire. On m'a dit, juste là maintenant, on m'a dit qu'il y avait un savant égyptien qui était intervenu. Moi, je ne donne pas de fatwa, je donne une opinion personnelle, parce que ce n'est pas sous l'angle de la fatwa qu'on changera les choses. Ce n'est pas fatwa, puis changer tout. C'est une conscience, une école personnelle, de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je consomme? C'est beaucoup trop simple, à un moment donné, à coup de fatwa. Oui, c'est... Quelqu'un l'a dit, puis alors, vous savez comment on en est arrivé maintenant à Tafati, entre nous, chacun se lance une fatwa. Et... Non, aujourd'hui, c'est une conscience personnelle, l'esprit critique qu'on doit avoir. Je ne sais pas comment on peut, aujourd'hui, concrètement, quand on sait ce que sont les multinationales d'un certain nombre de producteurs, d'un certain nombre d'aliments, je ne sais pas comment on peut ne pas les questionner quand ils sont à notre table, quand nous sommes musulmans. Je ne sais pas effectivement et très concrètement comment aujourd'hui, quand vous savez ce que sont les logiques multinationales fondées sur un système qui est écrasant, quand vous allez en Afrique, c'est une honte de voir effectivement l'omniprésence de Coca-Cola ou de Pepsi. Je ne sais pas comment on peut faire pour couper son jeûne et dire « Bismillah » et boire. Il n'y a aucune fatwa qui vous dit que le produit est haram, mais tout le commerce qui est là derrière est inacceptable. Inacceptable. Et qu'à partir d'un certain moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas, nous, dans ce pays, être les porteurs d'une conscience de ce que l'on consomme? Mais à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment, je commence à questionner ce que je mange. Et il y a un certain nombre, alors on a attendu, pour certains d'entre vous, les revendications du mouvement des citoyens par rapport à McDonald's ou par rapport au fast-food. Si vous avez compris la philosophie du Ramadan, vous avez compris qu'elle est en totale opposition avec la philosophie du fast-food. Total. Le fast-food, c'est ce qu'il y a de plus anti-jeûne, anti-jeûne. philosophie fondamentale pour tout ce que ça représente, le type de consommation, la façon de consommer. Est-ce que vous avez déjà vu un savant qui vous a dit ou qui a pu soutenir islamiquement « mange vite » ? Jamais. Toute la philosophie de « manger vite » ne correspond à rien de ce que nous défendons. Avec en plus tout ce qu'il y a derrière en matière de commerce inéquitable. À partir d'un certain moment, ça commence là aussi. Et moi, je ne cesserai pas, ma vie durant, inshallah, si je dois à ma communauté dire « je ne vous suis pas dans cette espèce de nouvelle mode de la pure technicité, dis-moi s'il y a un hadith ou dis-moi si c'est halal ou haram, sans réflexion sur le système globalement, et de devenir des consommateurs comme les autres consomment, des inconscients comme les autres sont conscients, des finalement des citoyens moyens. Ils ne se posent des questions que sur la technique, ils ne se posent aucune question sur ce qu'ils jouent comme rôle dans ce pays. Finalement, nous sommes confortablement installés. Venus d'un exil économique, nous avons juste ce qu'il faut pour vivre et maintenant nous vivons comme tout le monde. Une démission caractérisée dans cette communauté. Mais une démission qui est beaucoup plus profonde que simplement la démission dans la consommation. C'est d'une démission de la pensée. Ce qui dort chez nous, ce n'est pas seulement la foi, c'est la tête. C'est la tête, c'est-à-dire vraiment de ne pas comprendre. C'est un système lourd qui est en train, par notre complicité de consommateurs endormis, de tuer concrètement, sans armes, ça ne se voit pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous savez ce qui a été très très émotif à la télévision, hein? Le petit Mohammed, rahimahullah, qui est mort sous les balles à la télévision. Hop, émotion des musulmans. Il est mort à la télévision, on le voit. Mais je ne comprends pas, vous ne voyez pas que ce système dans lequel nous on est inscrits, en plein milieu du ramadan, on consomme comme tout le monde, produit 40 000 morts par jour. La moyenne, c'est ça. C'est pas la télévision, c'est pas un jeune qui meurt pour qu'on dise « Rahimahullah, il est mort », c'est une horreur. Mais c'est une horreur caractérisée 40 000 fois ce que vous avez vu une fois chez un homme, chez un jeune homme. Et je ne sais pas au nom de quoi vous faites la différence entre un jeune adolescent et un adulte. À partir de quel âge c'est scandaleux de mourir ? C'est quand même grave, ça. On est devenu émotif au point de ne plus avoir de conscience politique. Il faut avoir 12 ans pour que ça vous scandalise. Quand on en a 30, c'est pas scandaleux. Quand on en a 30 puis qu'on prend une balle à 15 cm, comme le premier ministre Ehud Barak proposait, montré du doigt internationalement comme celui qui allait ouvrir les chemins de la paix, il dit, quand on a tué quelqu'un à bout portant à 15 cm, on craint pas grand-chose. C'est le premier ministre de l'État d'Israël qui dit ça. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un symbole de l'ouverture et on se moque de nous. La réalité, c'est qu'on se moque de nous. Et que ce qui est déterminé, c'est que ce Premier ministre admet concrètement que dans la loi israélienne, il y ait effectivement des tortures de basse intensité. La torture de basse intensité consiste à avoir un médecin à côté du moment où on torture. Et il dit juste ce qu'il faut pour que ce ne soit pas visible. C'est légalement admis. Ok, ça c'est... Bon, enfin bref. Ça pour vous dire... que dans la consommation, il faut aller jusqu'à la réalité vraiment concrète de cette attitude dans notre consommation. Et il ne s'agit pas, chaque fois qu'il y a une injustice de par le monde, de hurler. C'est finalement une injustice contre laquelle, dans notre quotidien, ok, allons-y. Donc, dans notre quotidien, ce qu'il faut questionner, c'est vraiment là que ça commence. Et c'est une justice que l'on propose par rapport à un certain type de comportement dans notre consommation. Alors j'ai parlé de McDonald's, j'ai parlé de Coca-Cola, dans les tenues vestimentaires aussi. On est aussi ce qu'on consomme. Mais allez voir, mais je ne sais pas moi, mais une heure d'un reportage sur la façon dont travaillent ceux qui vous produisent vos vêtements ou vos chaussures de gym Nike ou Adidas. Et après, tu prends ça, tu le mets de côté, tu dis, je préfère le musulman, là, le basketteur, là, Hakim, là, aux États-Unis, qui dit, je vais faire des chaussures de gym à $15 pour ceux qui n'ont pas d'argent. Ça s'appelle pas Nike, ça s'appelle rien du tout, c'est une chaussure de gym représentative, Hakim, et c'est pour ceux qui n'ont rien. Mais ceux qui les font dans la dignité. Alors que tu peux porter des chaussures dans la dignité ceux qui les ont fait dans l'indignité et dans l'humiliation. C'est normal, ça ? Consomme. Est-ce que nous, on ne devrait pas, quand on a bien compris ce que c'était que le sens du ramadan, justice par rapport à soi, justice par rapport à ce que je consomme, poser des questions à nos propres consommations, à nos parents, à nos enfants. Dernier point, puisqu'il faut terminer, cela veut dire aussi une justice sociale beaucoup plus large. Alors la justice sociale beaucoup plus large, on la connaît, le jeûne du ramadan, et ça nous a été dit par le prophète, c'est que le moment où on jeûne, on doit penser aux pauvres. Il faudrait que pendant ce mois, on fasse en sorte, justement, lui, il n'était jamais autant généreux que pendant ce mois-là. Et donc, ce qu'il proposait, c'est une vraie attention aux gens. La première justice sociale, c'est l'attention. L'attention. Avoir la mémoire vive de cela. Combien d'entre vous ont jeûné aujourd'hui et ont pensé, je ne sais pas, 5 minutes, à la réalité de la pauvreté sur la terre? Mais pensez vraiment. Tu te dis, attends, je suis en train de faire quoi là? Ça sert à quoi ce que je fais? Pourquoi je ne mange pas? Pourquoi je ne bois pas? Au lieu de regarder sa montre et se dire, il reste 2 heures. Non, ça sert à quoi? À penser justement à cet intolérable système qui est en train de broyer 2/3 de l'humanité. C'est ça la réalité. Et pas seulement là-bas, hein, aussi ici. Et on va en dire un mot. Donc, la connaissance de la pauvreté par l'expérience pour développer la conscience de la pauvreté dans son rejet, dans sa lutte. Et là aussi, il faut qu'on renoue aussi avec notre vocabulaire. À tous ceux qui aimeraient que nous fassions disparaître de notre vocabulaire le mot « djihad », il faut que nous en donnions la définition. « Djihad », ça n'a rien à voir avec « guerre sainte ». Ça, c'est une définition qui nous a été d'abord imposée par des orientalistes que même certains musulmans ont accepté comme telle. Le « djihad », c'est un effort pour plus de justice par rapport à soi ou par rapport aux autres. Djihad en nafs, c'est un effort pour la justice de celle dont je parlais tout à l'heure, la justice intime, être juste avec soi-même. Et le djihad tout court, c'est un travail de justice dans la société, beaucoup plus généralement. Et ça, c'est déterminant, c'est un effort de conscience pour ne jamais démissionner de sa proximité d'avec les pauvres. Non pas pour être charitable à leur égard. La charité est une des dimensions que l'islam reconnaît, encourage. Mais elle ne la met qu'en supplément. Elle ne dit jamais que cela est suffisant. Ce qu'elle dit, c'est que la justice est un droit. Dans la zakat, l'impôt social purificateur, c'est le droit du pauvre. Hakun ma'loum. Hakun. C'est-à-dire, c'est un droit stipulé. C'est dans aucun texte juridique sur le plan international, c'est dans le texte des textes pour nous, c'est un droit et ce n'est pas une charité. Il n'a même pas à dire merci, c'est le droit qu'il a sur cette terre. Et le fait de couper le jeûne, c'est un droit inaliénable, inaliénable, et contre lequel on devrait, et pour lequel on devrait effectivement développer une conscience vive. Et de ce point de vue, refuser la pauvreté au nom du droit des pauvres, refuser tout type de discrimination. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire essentiellement qu'il faut déterminer des priorités. Un jour, alors que nous faisions un travail pour le tiers-monde, et c'était en particulier pour le Bénin, un jeune est allé vendre quelque chose à une vieille dame dans un centre commercial, elle le regarde et lui dit, non mais attendez, vous faites ça pour les Noirs là-bas, puis pour nous ici. Nous les personnes âgées, on vit dans une situation dramatique, il n'y a personne qui nous aide. Il est revenu, il était fâché. Il dit, c'est pas possible. C'était il y a quelques années. Il me dit, c'est pas possible. Elle voulait rien donner. Elle dit que... Je dis, mais attends, réfléchissons un peu. Elle a tort ou elle a raison? Elle a raison d'une certaine façon. Fais attention que l'amour de la solidarité pour ce qui est loin ne soit pas et ne cache pas une démission pour ce qui est près. Savoir la solidarité et l'humanité à proximité. Ça peut être dans sa famille. Mais ça peut être dans son quartier. La réalité, c'est que nous observons ce qui se passe dans les banlieues. Alors, il y en a quelques associations qui travaillent dans les banlieues. Mais majoritairement, nous sommes comme les autres, nous avons démissionné. Où on est dans les quartiers? Où on est dans les banlieues? Où il est ce travail qui est vraiment l'enracinement de proximité avec tous ces jeunes qui sont en train de se perdre, de frapper à gauche, à droite et qui sont délaissés? Pas simplement les Français de confession musulmane, tous! Ce qui est inadmissible, ce n'est pas de voir un qui s'appelle Abdallah ou Ahmad qui est en train de se perdre, c'est quand on voit Alain François qui est en train de se perdre pour les mêmes raisons. Une société qui fonctionne à 14 vitesses, et quand tu es dans la 14e vitesse, tu ne vaux rien ici. Tu ne vaux rien dans les banlieues. Et nous, on est là, on observe. C'est triste quand même. Et qu'est-ce qu'on fait? On va comptabiliser dans les prisons combien il y a de musulmans. Mais l'injustice, c'est l'injustice pour tous. Où on est? Où elle est la conscience citoyenne de ceux qui sont là dans cette salle et qui disent « Attends, mais j'ai compris de ce ramadan qu'on devait être sur le terrain aussi de ces banlieues. » C'est une honte. On nous dit communautarisme religieux ethnique, mais on n'en a rien à faire de ça. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ce problème. Nous, on est en train de voir dans ce pays un communautarisme des bourgeois d'un côté et un communautarisme des exclus de l'autre. On est en train de parquer tous ceux qui valent rien, tous ceux qui servent à rien, dans les asiles pour les personnes âgées, dans les banlieues pour les jeunes délinquants qui servent à rien. Et puis il y a des quartiers, il n'y a que des blancs. Et puis il y a même maintenant, c'est bien, des gens, des Arabes, ils y arrivent. Ils sont civilisés. Les autres dorment. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on vient de dire, vous êtes pour un communautarisme, on s'en fiche du communautarisme religieux, on n'en veut pas. On est pour une communauté spirituelle et pour une citoyenneté active. Mais avec tout le monde, on n'est pas pour ce parcage qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui comme un modèle de société juste. Ou quand tu t'appelles Abdallah pour aller dans un coin où il n'y a que des Français, t'as intérêt à te présenter avec le nom Henri. Comme un de nos frères là, à Toulouse, il dit, j'ai téléphoné, il a un accent du Sud. Il s'appelle Hakim. Non, Hakim, il n'y a pas d'appartement pour Hakim. Par contre, pour Maurice, il y en a. C'est le même. Hier, il n'était pas là et aujourd'hui, il y est. Ça, c'est une réalité. Il faut se battre pour ça. Et les droits, on ne va pas venir vous les servir sur un plateau. On ne va pas venir vous dire, ah, mais vous êtes gentil, vous jeûnez. Ben, tenez, voilà vos droits. Les droits, ça va se chercher. Ça part d'une conscience vive qui part du cœur, qui est de l'énergie du cœur. Dit, j'ai des droits ici. Et ces droits-là, on va se battre. Et celui qui est en prison parce qu'il a été délaissé, ceux qui sont dans ces écoles, ces écoles dortoirs maintenant, où tu mets tous ceux qui servent, et puis en plus, quand ils pourraient réussir, tu les parques sur des trucs techniques qui serviront à rien pour eux. Ben nous, on doit être là où on est. Où elle est cette justice? Mais ça naît de l'exigence qui est née à partir de Ramadan. Ramadan, c'est ça, c'est se réveiller ça, cette espèce de force, d'énergie, de la revendication de justice. Alors c'est vrai dans les banlieues. Et puis j'aimerais dire aussi que ce que nous avons à démontrer, nous sommes nés et nous sommes le produit, tous pratiquement, de l'exil et de l'immigration. Si maintenant l'islam n'a rien à voir avec l'immigration, nous venons du sud pour la majorité d'entre nous. Il aimerait que je finisse, c'est bientôt fini. Nous venons du sud. Et le minimum, même si nous en oublions le sens même de notre religion, au moment où nous jeûnons, et que ceux qui n'ont rien là dans le sud, majoritairement musulmans, jeûnent aussi, eh bien le minimum que nous devrions avoir comme solidarité, c'est d'y penser et de lutter pour une justice nord-sud. Où on est dans la justice nord-sud? Combien il y a d'associations qui naissent de ces citoyens français de confession musulmane qui s'occupent du sud? Où on est? Non, pendant Ramadan, je donne, 11 mois, je dors. Où on est dans la réalité d'une vraie... Et pas simplement de donner, de comprendre les processus. Le problème que nous avons maintenant... Il veut vraiment que je m'arrête. Le problème que nous avons maintenant, c'est effectivement la compréhension des processus. Pourquoi il y a des processus de clivage comme ceci, Nord-Sud? Qui d'entre vous comprend les questions de la dette? D'où ça vient la dette? D'abord, la dette vient de la mauvaise gestion financière des pays musulmans eux-mêmes. Tout ça, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on étudie. Cette justice-là, elle nous impose pendant ce mois aussi à être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix des sans-voix. Mais ça naît de... Qui a bien compris Ramadan, c'est ça. Mais ce n'est pas nous tout seuls contre tous les autres. Tout à l'heure, on était avec un chrétien, il prend la parole, il dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas à créer des synergies avec les chrétiens, avec les humanistes ?» Mais oui. Mais pourquoi on ne le fait pas, ça? Pourquoi on est devenu, finalement, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, puis je dors? C'est un mois de fatigue. Alors que ça devrait être un mois d'une énergie folle pour revendiquer cette justice de proximité et cette justice beaucoup plus générale dans les banlieues et... plus généralement à l'extérieur. Dernier élément, vous savez qu'il y a une zakat el-fitr qui est un don à donner pendant Ramadan et qui rappelle le nom de zakat, qui est un droit du pauvre. Vous savez cela. Et cette perspective, elle est aussi qu'il faut se rappeler d'une chose qui montre bien notre enracinement. Selon les juristes, très majoritairement, la zakat, elle doit d'abord être dépensée là où nous nous trouvons. Et si les nécessités de là où nous nous trouvons sont, sont couvertes, eh bien, on peut penser à les envoyer, sauf cas d'urgence, ailleurs. Mais pour pouvoir dépenser là où nous nous trouvons, il faut connaître le lieu. Il faut vraiment faire un travail de proximité, chacun consciemment, personnellement, collectivement, si tu es seul ou si tu es en association. On ne sait pas grand-chose de quels sont les besoins locaux. On ne fait pas le travail de compréhension des processus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait des pauvretés endémiques comme cela? Comment ça se fait aujourd'hui qu'il y ait des processus qui développent des banlieues de façon aussi catastrophique? Comment cela se fait-il qu'il y ait des gens qui soient vraiment dans le dénuement? On ne fait pas travailler nos intelligences, malheureusement, ce qui est pourtant le sens même de Ramadan, et on fait peu travailler nos réseaux de solidarité. Et je crois que c'est peut-être cela qui doit être la meilleure école. On a le choix. Se laisser coloniser par un Ramadan devenu exotique ou s'épanouir et rayonner par un Ramadan qui est de renouer avec le sens de l'effort et des bonnes questions. À tous les niveaux, au niveau de la justice personnelle, ce que je me dois, ce moment qu'on prend pour soi, pour se dire loin de la consommation, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je deviens, dans ce que je mange, ce que je consomme, de Coca-Cola à tous ces produits qui sont peut-être des produits de... où il faut vraiment se poser la question de l'éthique. Même d'ailleurs aussi, j'aimerais dire une chose, petite parenthèse aussi, dans le traitement des animaux. Nous devrions être les premiers à revendiquer un meilleur traitement des animaux dans leur consommation et dans leur traitement. Dans leur consommation, dans ce qu'ils consomment, on ne dit pas grand-chose. C'est halal si on a dit « Bismillah, Allahu Akbar ». Si l'animal a été frappé, mis dans un coffre, ce qu'on a vu dans le sud là, on dit « Ah, ils n'aiment pas l'islam ». T'as vu les images qu'ils montrent? Ils montrent Eid al-Adha. Ben moi, je vais vous dire une chose. Dans le comportement de certains musulmans, il y a vraiment des signes qui vous empêchent d'aimer l'islam. Franchement, qu'on me dit que Brigitte Bardot est d'extrême droite, on s'en fiche de Brigitte Bardot et de l'extrême droite aussi. Par contre, est-ce qu'elle dit des choses qui sont vraies? C'est que ça qui m'intéresse. Alors quand elle dit que parfois des musulmans maltraitent les animaux, les frappent, les attachent n'importe comment, les suspendent n'importe comment, et que je vois ce que j'ai vu de mes propres yeux vus, je dis elle a raison. Et tout ce qu'elle dit de faux ne m'intéresse pas. Tout son racisme et toute sa xénophobie ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le mauvais traitement des animaux. Et de dire, de voir des musulmans qui... ils vont dire Bismillah Allahu Akbar pour pouvoir manger le mouton. Mais ils l'ont frappé, ils l'ont ligoté, mis dans un coffre, fermé le coffre dessus. Mais où on va là? Et tu peux dire qu'après ça sera halal? Le but c'est simplement Bismillah Allahu Akbar. On ne devrait pas aussi dans cette consommation se poser la question de comment on traite les animaux? De ce qu'ils consomment aussi? On ne devrait pas aussi à partir de... je veux dire, on a un mois où on se prive de consommation pour pendant 11 mois... et même ce mois-là, être des consommateurs comme les autres. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que c'est que cette religion qu'on a dévoyée? Qu'est-ce que c'est que ces principes qu'on néglige? Puis on fait comme tout le monde. Donc c'est ça, la justice dans la consommation. Et puis plus généralement, la justice sociale, de proximité, se préoccuper d'être attentif aux gens. Des fois, franchement, quand vous avez perdu un être que vous aimiez, vous vous apercevez quand il est parti que vous avez été injuste avec lui. Vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas été l'oreille, vous n'avez pas été la présence, vous n'avez pas donné du temps. Ça, c'est une justice sociale, familiale. Les questions qu'on se pose, on se dit, non mais attends, est-ce que je donne assez de temps à mes enfants? Est-ce que je suis l'oreille qui les écoute? Est-ce que je suis le regard qui les accompagne? Est-ce que je suis la présence qui les éduque? Deuxième élément, les banlieues. la sphère ici entre nous, la cité, la France, là aussi, je veux dire. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays, ils ont fait 4 ans de prison, pour rien ? Pour leur nom, pour leur faciès ? Vous savez qu'il y a des gens, quand on les... Bah, vous avez peut-être vu ça, quand on les arrête dans la rue, on ne sait pas pourquoi, le policier les tutoie. Ils n'ont pas de droit. Puis comme ils n'ont pas de connaissances, ben, ils ont une non-identité. La culture du faciès, l'État, ce qu'on a appelé vigipérate, la façon dont on traite les gens. Puis on va continuer jusqu'à quand ? À être des sinistrés, émotifs et craintifs. Jusqu'à quand ça va continuer ? Si le ramadan ne nous donne pas de courage, où est-ce qu'on va le trouver ? Donc le travail de proximité est plus généralement le travail de dignité, de compréhension, de conscience, qui ne soit pas, permettez-moi de le dire, strictement émotif. Je suis content de voir des populations. On m'a dit ici à Lyon qu'il y avait eu 5000 personnes pour défiler pour la Palestine. On est content, ça nous réjouit de voir qu'il y a des populations qui se lèvent en disant c'est inadmissible. Mais en même temps qu'on est réjoui, je vous promets qu'au fond de moi, avec quand même un certain nombre de personnes, c'est révoltant de voir des communautés qui ne se réveillent que quand l'événement est médiatisé. C'est révoltant finalement de savoir qu'on s'est réveillé parce que tous les médias ont parlé de la Palestine. Ça fait 50 ans que des gens sont maltraités. Ça fait 8 ans depuis qu'on a commencé le processus que tous ceux qui sont allés en Palestine ont dit « c'est terrible ce qui se passe, c'est une bombe à retardement, demain ça va sauter, ça a sauté ». Ça fait 8 ans, nous non, il n'y a pas d'image, on n'y voit rien. On est même là au niveau de notre tête, on ne va même pas se renseigner. Ça fait 8 ans que depuis le processus a commencé, c'est un peuple qu'on étouffe. Ok ? Alors c'est pas, on n'en parle pas, donc nous on n'en parle plus. Autre chose, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, ça fait quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce qui était médiatique ? La Tchétchénie ? Eh bien on en parlait de la Tchétchénie. Maintenant que c'est plus médiatique, ça n'existe plus, alors que l'on sait que les derniers rapports sur la Tchétchénie sont gravissimes en termes de torture. Autre exemple. De tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'oubli. Un homme a ébranlé un pays, il s'appelle Ben Brik, n'est-ce pas ? Par rapport à la Tunisie. La justice sociale, c'est aussi ça, c'est aussi de se préoccuper de ce qui se passe dans le Sud. Alors quand Ben Brik parle, tout le monde peut parler de la Tunisie, mais ça continue. Vous avez des gens qui sont en train de mourir en prison en Tunisie, dans cette prison géante. Et puis un autre cas, je viens de rencontrer une enseignante qui, avec un certain nombre d'élèves d'un lycée ici se sont mobilisés, ils étaient d'ailleurs venus dans cette même salle présenter une vraie défense, digne, courageuse aussi, dans le silence général par rapport à l'Irak. Mais ça continue en Irak, des morts et des morts quotidiennement. C'est pas médiatique, ça nous intéresse pas. Si on est devenu cela, c'est qu'il n'y a pas grand chose à attendre de notre conscience et à attendre de notre conscience de jeûneur. Je ne conçois pas qu'on puisse jeûner et être intellectuellement aussi endormi. Et ça demande à chacun d'entre nous de se poser la question. Jeûner, c'est réveiller sa conscience dans tous les niveaux que j'ai pu mettre en évidence. J'espère avoir répondu, peut-être un peu partiellement, mais en tout cas en donnant des voies de réflexion à la question qui était posée. Voilà comment vous.
C'est de prendre contact avec lui pour ces questions et avoir des réponses.
Attendez, une seconde et surtout l'invocation. L'invocation pour vos frères et vos sœurs partout. J'ai juste quand même un point que je voulais dire. Ne me comprenez pas mal, je l'ai répété partout en traversant la France ces derniers mois. Quand je parle de revendications par rapport à la justice, j'ai cité 4 exemples tout à l'heure. Ils étaient tous liés à des pays musulmans. Et partout, j'ai rappelé que l'injustice, c'est pas simplement l'injustice par rapport aux musulmans, c'est l'injustice par rapport à tout être. Aujourd'hui, que nous nous taisions par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, c'est pas normal. Et que nous nous taisions par rapport à ce que vivent des nonnes et des moines au Tibet sous colonisation chinoise, c'est pas normal non plus. L'injustice, c'est la même chose pour tout le monde. Et le prophète ﷺ nous a dit... Craignez l'invocation de celui qui est injustement traité, même s'il est négateur. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ. Il n'y a pas entre cette invocation et Dieu de voile. Il faut vraiment vous souvenir de ce hadith en permanence. Même celui qui ne croit pas en Dieu et qui a subi une injustice, Dieu entend sa plainte et en tient compte. Donc ce n'est pas une injustice pour les uns pour les autres. Vous avez 8 versets du Coran qui viennent dire qu'un juif était innocent et qu'un musulman était coupable et qu'il fallait s'en prendre aux musulmans. Nous n'avons pas de justice sélective. Soyez éveillés par tout type d'injustice, qu'elle soit contre nous ou qu'elle soit faite par l'un d'entre nous, qu'elle soit contre n'importe quel être sur la surface de la terre.
اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فاللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارحمهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقو إيمانهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي الجزائر وفي تونس وفي أفغانستان وفي السودان. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في السجون وتحت التعذيب إنهم مظلومون. يا رب فانتصر وقو إيمانهم. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا إخوة في سبيلك واجعلنا إخوة في سبيلك. وتقبل منا صيامنا وتب علينا وارحمنا واعف عنا وسامحنا وسامحنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار والصديقين ورسلك الكرام برحمتك علينا يا رحمن يا رحيم يا حليم يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. وصل اللهم على سيدنا محمد صلوات ربي عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-podcast.com. www.radio-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69392, Lyon, CEDEX 03.